Paradiso, Yann Zitouni.
Bonsoir à toutes et à tous, une émission réalisée ce soir par Jean-Claude Gailly et des retrouvailles un petit peu particulières parce que d'une part ça fait super longtemps que je ne suis pas venu vous voir. Oui parce que vous avez passé plus de discussions que j'ai eu avec Al Comet alias Mahadev Cometo il y a quelques mois déjà à l'époque où est sorti son album qui s'appelle Freedom. Je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est quelqu'un qui vient de plein de musiques différentes et notamment en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'on l'a beaucoup remarqué lorsqu'il faisait partie des Young Gods et cela pendant un quart de siècle l'air de rien. Il y a 2-3 ans il a arrêté, il est parti sur autre chose et autre chose c'est notamment la musique indienne et on va, alors avec de la musique électronique dedans, on n'est pas dans la musique purement traditionnelle indienne, il va falloir tendre l'oreille pour saisir toutes les subtilités, les nuances de son travail, mais je ne doute pas que vous le ferez. Et puis, comme je vous le disais, cet album il est sorti il y a un petit moment, c'est une discussion qu'on a eue en fait à l'été dernier et à chaque fois je me disais il faudrait qu'on trouve le moment idéal pour avoir pour écouter cette interview. Après tout l'actualité n'est pas forcément, je veux dire, tout ce qu'on a dit reste valable aujourd'hui, l'album reste disponible, donc on n'est pas, il y a aucune page particulière qui a été tournée. Pourquoi faire ça ce soir? Parce que ce soir, 1er janvier, j'avais envie qu'on commence l'année sous le signe de la zénitude. Je pense que, je sais pas, c'est peut-être un bon augure, j'espère. Mahadev Cometo, donc, avec cet album qui commence façon promenade dans les rues de Bénarès, je dirais, puisqu'il a passé du temps là-bas. Je suis avec Mahadev Cometo. Bonjour.
Salut, bonjour.
Je vous appelle comme ça dans la vie. Comment c'est votre identité quand on vous croise dans la rue, vous n'êtes pas sur scène et qu'on parle pas de votre album?
Bof, écoute, quand j'avais 17, 18 à Fribourg, on m'appelait déjà Jimmy, tu vois, donc. on va dire que j'ai changé un peu de nom à chaque projet différent, on va dire. Chaque projet conséquent, donc on va dire étape dans la vie qui change. Donc le tout premier truc, c'était Alfonso. Ça, ça n'a absolument rien donné à part des cassettes échangées entre un ami qui était aux États-Unis, qui faisait ses études là-bas. Donc on s'est échangé des cassettes comme ça, c'était intéressant.
Mais ça, cassette, c'était en 1930 à peu près, non?
En 1830. Et plus tard, c'était Alnox. Alors là, j'ai fait un premier disque à 30 ans. J'ai fait un premier disque autoproduit, donc on va dire exactement dans le même schéma de le dernier qui a été fait là. Donc autoproduit, enregistré, mixé, tout le bastringue par moi-même. J'ai appelé Turicaphone à l'époque, près de Zurich. Et je leur ai demandé de m'en presser un millier. Il m'en reste au moins 600. Que je donne gratuitement à n'importe qui m'achète au moins... Voilà.
Trois exemplaires du nouveau.
Trois exemplaires du nouveau, j'en donne un gratuit du vieux, quoi.
Bon, sinon, après, c'est une histoire de génération, de savoir où on était, à quel moment et tout, mais il y a quand même un passage qui est important, c'est l'identité, l'étape Al Comet avec les Young Gods, qui s'est terminée il y a quelques petites années. On s'était croisés déjà à l'époque où c'était déjà en train de partir sur autre chose, sur cette nouvelle étape de Mahadev Cometo, qui est donc une déclinaison de votre ancien nom, et puis il y a une espèce de, d'indianisation de ce nom. Mahadev, c'est le terme, pour que je ne dise pas de bêtises, ça signifie quoi en gros?
Donc Maha, ça veut dire grand, et Dev, c'est Dieu. Donc c'est grand Dieu. Le Mahadev, c'est le dieu des dieux en Inde, dans la mythologie indienne, c'est Shiva. Shiva, il a sauvé les autres dieux, et lui, on l'appelait Mahadev. Et j'ai reçu ce nom en Inde, disons, en faisant suite à des performances musicales ou soniques en studio avec un groupe de musiciens indiens qui m'ont invité à aller les trouver dans leur session de studio. Et puis comme tous les groupes, on s'est retrouvés dans la régie, puis les types discutent ensemble quant à l'enregistrement qu'on venait de réécouter. Puis ils disent, comme tous les musicaux, qu'est-ce que tu penses, trop de basse, moins pas assez, plus gauche, droite, etc. Jusqu'à un moment où le gars, Oustad Fateh Ali Khan, me demande, et toi qu'est-ce que t'en penses? Puis je dis, oh ben, écoute, moi je pense que c'est super, mais personnellement je ferais pas la même chose. Et l'ingénieur du son m'a directement tendu le petit tapis, puis la souris. Puis il m'a dit, you can make. Alors j'ai bossé pendant 10 minutes, quart d'heure, comme ça, là, puis ça a tout de suite pris une autre dimension, on va dire, assez rapidement. Et le proprio du studio m'a dit directement, you have to come tomorrow. Viens demain. Puis j'ai dit, non, demain, je peux pas venir. Je vais prendre des cours de sitar chez mon gourou. Alors, je peux pas venir demain. Alors, il m'a dit, c'est qui ton gourou? J'ai dit, c'est Rabindranath Goswami, c'est un mec vraiment connu à Benares. Il m'a dit, ah, tiens, chez Goswami, ah, ok. Alors, je dis, viens le jour après. Comme day after tomorrow. Puis je dis, ouais, ok, je viens le jour après, puis on verra bien. Et je suis venu le surlendemain. Entre-temps, j'avais, avec un agra, enregistré le groupe. Et chez moi, j'ai commencé à bricoler avec mes pédales, l'électronique, le bazar, là. Et j'ai fait, si tu veux, un remix, comme on appelle ça ici, de leur truc. Et alors, on a écouté les mix final de le résultat des courses, là, de leur enregistrement. Et quand ça s'était fait, j'ai branché mon agra sur la chaîne, ça sonnait vraiment tout autre chose, et vachement bien. Et le gars qui jouait du Chinaï, Oustad Fateh Ali Khan, a commencé à dire, c'est la première fois que j'entends sonner mon instrument aussi bien que ça. Il avait les larmes aux yeux, il était fou de joie, et il a commencé à se prosterner, à dire Mahadev, Mahadev. Puis tout le monde a rigolé. Et depuis ce jour-là, tout le monde m'appelait Mahadev.
C'est un peu pour rire alors finalement. Parce que se faire appeler le dieu des dieux comme ça par des gens alors qu'on est étranger à cette culture, a priori, c'est quand même un peu intimidant, non?
Mais si tu veux, sur le moment, j'y comprenais rien du tout, oui, moi, parce que je suis là-bas, je comprends rien. Je me dis, tiens, Mahadev, c'est rigolo, ça sonne bien. Les jours qui suivent, tout le monde fait signe, hey, Mahadev. Puis tout le monde dit Mahadev. Puis je dis, tiens, c'est rigolo, quoi. Jusqu'à ce que je me pose la question, dis donc, merde, ça veut dire quoi? Et là, je pose la question à un pote indien qui m'explique ça, ça veut dire grand Dieu. Et alors là, je me pose encore plus des questions parce que personne là, en Inde, a aucune idée que je viens de passer quasi un quart de siècle à jouer avec les jeunes dieux. Je pose la question à un pote indien qui m'explique ça, ça veut dire grand Dieu. Et alors là, je me pose encore plus des questions parce que personne là, en Inde, a aucune idée que je viens de passer quasi un quart de siècle à jouer avec les jeunes dieux. Donc maintenant, je viens de me faire
baptiser. Les young gods, le bien sûr.
Dieu, tu vois ? Mais j'ai passé un quart de siècle en tant que jeune dieu. Donc si tu veux, pour moi, c'est... J'ai la bouche ouverte, je ne comprends rien du tout. Je me dis, bon, ben, voilà, j'ai trouvé mon nouveau nom d'artiste. Je n'ai rien trouvé, on me l'a donné. C'est génial.
Mahadev Kometo, un album qui s'appelle Freedom. Ça, j'arrive à comprendre, la liberté, on va en parler tout à l'heure. Mais il y a surtout un sous-titre, parce que, en fait, c'est des interprétations de composition de quelqu'un, de raga de quelqu'un. Il faut m'expliquer un petit peu, parce que moi, je reste désespérément européen.
Ouais. Donc, on va dire un raga, ou rag, R-A-A-G, c'est un morceau de musique traditionnelle indienne, donc musique classique indienne. Il en existe des centaines et des centaines de ragas. Donc, on va dire, c'est des règles, c'est des règles assez complexes. Si tu veux absolument tout savoir d'affaires, ça pourra quand même te prendre bien quelques dizaines d'années. Mais on va dire, j'ai respecté dans la mesure du possible le protocole du raga indien dans cet album. Donc, ce raga s'appelle Rag Shivranjani. C'est un hommage à Shiva. C'est de nouveau un concours de circonstances. Mon gourou, la troisième leçon, m'a tendu un CD, m'a dit « Écoute ça, c'est vachement bien ». Puis j'ai écouté cet album de Nikhil Banerjee, qui est un grand maître de sitar, déjà mort maintenant, un type assez fameux. Et puis, je ne savais pas quel raga il jouait, parce que c'était marqué à la main, là, en moitié en hindi sur le truc. Mais la mélodie qu'il jouait m'a vraiment beaucoup plu. Donc, quand on est arrivé au moment où je devais approfondir un raga avec mon gourou, là, je lui ai dit, écoute, moi, j'aimerais bien jouer le même raga que le disque que tu m'as filé. Il m'a dit, ah, c'est Rag Shivranjani, tiens, c'est marrant, là. Maintenant, je m'appelle Mahadev. Et puis, par hasard, j'aime un morceau qui est un hommage à Shiva. Donc, si tout qui tourne dans le truc de Shiva sans que je fasse rien du tout et que j'y comprenne rien moi-même.
Faut dire un mot de la pochette de l'album, forcément du visuel, avec un Mahadev Kometo qui a plusieurs bras, plusieurs capacités, plusieurs pouvoirs.
Ouais. Donc, les pouvoirs, ben ouais, d'un côté, on voit bien le sitar. Donc, c'est à peu près 3000 ans, l'instrument. Avec des sonorités ancestrales. Alors voilà, c'était en fait toute la difficulté. Dans les mains, qu'est-ce qu'il y a ? Des câbles jack, des pédales d'effet. Voilà la difficulté. sais, en rentrant des Indes en 2012, janvier, j'avais planifié une session studio dans le courant de l'année, au mois d'août, en pensant qu'avec 10 jours de studio, j'allais réussir à enregistrer, mixer tout cet album. En fait, ça m'a pris 5 ans pour réaliser tout ça. J'ai pas pu avant. Cette séance de studio qui était planifiée à 10 jours, au bout du 3e jour, on est tous rentrés à la maison et il n'y avait pas une seule minute de sympa à écouter au niveau du résultat. 6 mois plus tard, j'ai refait une séance de studio, 3 jours, il n'y avait rien du tout à écouter. Si tu veux, il m'a fallu...
Pourquoi?
Parce que, si tu veux, on va dire, d'un côté, le sitar sonnait bien, tout seul. De l'autre côté, l'électronique sonnait parfaitement bien, tout seul. Mais maintenant, quand tu mettais ces deux trucs ensemble, ça marchait juste pas. Donc, ça sonne pas, ça fonctionne pas. Alors pourquoi? Ben, personne peut le dire parce que personne n'a de l'expérience d'enregistrer cet instrument ici. On comprend rien. On est tous comme des cons. Alors, on avait tous quand même pas mal d'expérience dans studio, recording, faire des albums. Ça faisait tous 20 ans qu'on fait ça. On n'est pas vraiment des débutants. Eh bien, entre tout le monde, on n'arrivait pas trouver des solutions. Et il m'a fallu, je te dis, un boulot de dingue, de titan pour arriver au bout de l'affaire. Là, maintenant, je dois dire, je suis extrêmement content parce que quand tu écoutes ça, tout est naturel, ça passe comme une lettre à la poste. Tu dis, ah super, c'est du sitar avec l'électro.
C'est plus que naturel. C'est quand même la force de cet album, c'est de voir comment les deux se mélangent. Le choix, alors après il a fallu, j'imagine qu'une partie du boulot, parce que le son du sitar, il est ce qu'il est, on peut peut-être le changer, le modifier un petit peu, mais ça reste quand même quelque chose d'assez immuable, et ça fait des milliers d'années effectivement que c'est ce que c'est. Après on peut déplacer les micros, on peut équaliser, mais c'est pas, voilà, on a la marge de manœuvre qu'on a. Par contre pour l'électronique, il y a eu un boulot de choix des textures électroniques qu'il a fallu choisir, définir, construire et adapter de façon à ce que ça rentre directement dans les... À chaque fois qu'il y a un petit creux sonore, sonique, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une alvéole qui est dessinée par le sitar, on a l'impression que l'électronique vient de se ranger dedans. Et le boulot, il est là.
Ouais, le boulot, il est là. Bah, si tu veux, le boulot, il est... Alors, j'ai atterri quand même à Londres avec un gars qui s'appelle Youth, qui est le bass player de Killing Joke, mais qui est aussi un fameux producteur, vraiment de renom, très, très doué. Et j'ai bossé presque une année avec lui, en faisant des allers-retours entre Londres et ici. Et lui, si tu veux, j'ai pas utilisé les résultats directs du travail en commun, mais le fait de travailler avec lui et sa manière de faire m'a vraiment repoussé dans mes derniers retranchements. Donc, à un moment donné, j'ai dû sortir absolument tout mon potentiel ou tout mon savoir, comment dire, pour me sortir de la situation. Et il a été très fort dans sa manière de faire. Si tu veux, à un moment donné, j'ai réalisé que je voulais pas être un gars qui allait faire une performance sitaristique dans un studio. Je veux pas être ça. Je veux être un type qui écoute un super disque de sitar qui me plaît. C'est pas la même chose. Mais il a fallu aller jusqu'à Londres pendant une année pour finalement que je réalise que c'est ça que je voulais. Donc, chez lui, à un moment donné, j'ai dit, écoute, là, tu vois, le prochain pas, je suis en bas du précipice, mais attends, j'ai encore une flèche dans mon carquois. Et puis, il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Et je lui ai dit, je vais sortir mes sampleurs. Il m'a dit, quoi? Tu vas foutre du sitar indien dans du sampleur? J'ai dit, écoute, mon pote, moi, j'ai joué quand même un quart de siècle au sein du sampleur. Je sais ce qui se passe avec ça. Donc, tu me donnes 2 mois et demi, et puis je suis de retour à Londres, et puis on va voir comment ça sonne, le sitar, avec du sampleur.
C'est-à-dire quoi? Toutes les parties de sitar sont échantillonnées, en fait? Ce qu'on entend sur l'album?
Pas toutes. Pas tout, justement. C'est une symbiose de ça.
Évidemment, nous sommes sur l'album de Mahadev Kometo qui s'appelle Freedom, ce fribourgeois indien, puisque là j'ai l'impression qu'il passe la moitié de son temps là-bas et l'autre moitié en Suisse. Suite de la discussion autour de cet album et sur la genèse donc de ce disque.
Entre temps, je suis passé chez un copain à Londres que je connaissais de longue date, qui me présente un simple nouvelle génération, comme il m'a dit, qui est sorti en 2011, justement là où je suis parti en Inde et j'ai en ce temps-là bypassé tous les trucs électroniques qui m'avaient tendance à me... J'en avais trop, toi. Et j'ai acheté cette machine, nouvelle machine, nouvelle génération, et ça m'a permis de me sortir de ma propre gonfle, c'est-à-dire cette machine et le fait de mettre ou de faire un programme dans un sampler, en comprenant comment fonctionne un sitar et en essayant de refaire une combinaison pareille, mais par l'électronique, a fait que tout à coup, la mayonnaise a pris, si tu veux, entre ces sons électroniques futuristiques et ces 3000 ans d'histoire musicale.
C'est vraiment une question de mayonnaise, c'est vraiment une question de savoir, de voir le moment où ces deux substances, un peu comme l'huile et le vinaigre qui ne se mélangent pas, puis un jour ils se mélangent, parce qu'on a trouvé le truc qui fait que ça va se mélanger, voilà. Et c'est seulement là que ça fonctionne. C'est ça l'histoire de ce disque en fait.
C'est exactement ça.
Parce que je me souviens quand on s'était vu, ça devait être en 2012 effectivement, maintenant que ça me revient, la tentation, en tout cas telle que je l'ai perçue, c'était que la musique de Mahadev Kometo soit une espèce de carte postale supplémentaire. C'était une possibilité, parce qu'il y avait la découverte de l'Inde, parce qu'il y avait la découverte d'une nouvelle personnalité, d'un nouveau champ qui s'ouvrait, et avec l'envie qu'on peut avoir justement de courir dans ce champ, à perdre haleine et à se perdre un petit peu. Et puis là, il y a eu une étape justement où il y a eu cette envie de ne pas partir dans la carte postale et de ne pas vouloir faire un disque de musique indienne de plus, traditionnel de plus.
Bah, si tu veux, ça pour moi, c'était quelque chose d'assez clair là-bas. Assez vite, j'ai réalisé que je ne voulais pas jouer comme les grands maîtres. Ça ne m'intéresse pas. J'étais là-bas pour apprendre les techniques de... Allez, pour pouvoir jouer du sitar, tu es obligé de... passé par là, on va dire. J'étais charmé par la musique indienne quand j'ai réalisé que la musique indienne est en fait basée sur des loops. Donc,
des boucles
en français. Mais c'est ce que je venais de faire avec les Young Gods pendant 25 ans au sampler, tu fais des boucles. Donc si tu veux tout à coup, alors que je pensais que c'était diamétralement opposé, non, il y a quelque chose qui se rejoint tout à fait. Et ça m'a facilité la compréhension de tout l'ensemble de la musique indienne, parce que tu dis, ah, mais les boucles, je les reconnais, je sais les gérer.
C'est une histoire de compréhension et de d'être décomplexé aussi, par rapport à la musique indienne. Je suis peut-être pas légitime parce que je viens d'ailleurs, mais en même temps, j'ai une connaissance commune avec cette culture. Donc quelque part, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit d'en parler.
Ça, je pense que la musique, c'est quand même un langage international, je veux dire multi-tout.
Même avec des cultures aussi différentes.
Bien sûr, parce que la musique reste la musique. Si tu veux, ça reste des notes, ça reste des... La musique, il y a deux composants, c'est le temps et puis la note, la hauteur de note. Donc.
Après, c'est la façon dont on va les organiser. C'est-à-dire qu'un morceau de pop de 3 minutes 30, il n'a pas le même objectif, la même philosophie, le même ADN, le même point de départ et le point d'arrivée qu'un raga indien.
Absolument, absolument. Et là, de nouveau, les Indiens, si tu vois, ils ont un grand savoir en plus que nous autres. Par exemple, il y a les ragas du matin que tu joues pas le soir. Il y a les ragas du midi, il y a les ragas de l'après-midi, il y a les ragas du soir. Il y a les ragas pour la mousson. Si tu veux, c'est pas... Ils ont des raisons très claires de jouer ces morceaux à tel moment et pas à un autre. Si tu veux, ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment quelque chose de spirituel, officiel, si tu veux. C'est pas pour rigoler. Oui, c'est pour rigoler, bien sûr, mais si tu veux, c'est pour... D'après eux, c'est pour ramener les gens aux divinités. Ça donne un accès aux dieux, leur musique.
We'll be right back.
Ce que je trouve bien, il y a pas mal de choses que je trouve bien dans cet album et dans le travail de Mahadev Kometo, c'est cette perplexité qu'on peut éprouver à se demander, est-ce que je suis en train d'écouter un instrument plutôt électronique, est-ce que je suis en train d'écouter un instrument plutôt traditionnel, et il y a cette zone grise, et je trouve très intéressant tous les deux mondes qu'on dit plutôt antinomiques finalement se rencontrent et s'interpénètrent. Voilà, c'était ma jolie phrase de la soirée, il n'y en aura pas d'autres, je vous rassure. La suite de cette conversation à propos des musiciens indiens, et ce qu'ils connaissent, ce qu'ils côtoient, Mahadev Kometo.
D'après eux, c'est pour ramener les gens aux divinités. Ça donne un accès aux dieux, leur musique.
Alors qu'on n'en est pas là du tout en Europe. C'est en ça que je dis que c'est peut-être, le même matériau de base, mais la façon qu'on a de l'articuler, il est tellement différent.
Il est vachement différent, mais inconsciemment, peut-être que c'est là aussi, si tu veux. Je pense que le rock, tu l'écoutes aussi quand tu as peut-être... Quand tu as de la peine à t'en sortir pour toi-même, à quelque part, ça te fout la pêche d'écouter tel ou tel titre. Tu dis, ouais, de Dieu, j'écoute ce machin, ça me redonne la pêche et ça me redonne envie de faire quelque chose, du courage, etc. Donc peut-être que nous, on ne l'interprète pas comme ça parce qu'on n'a plus cette connaissance pour en parler. Mais au fin fond, c'est peut-être exactement le même effet. Sauf qu'on le perçoit plus comme ça, mais c'est probablement exactement le même effet.
Et on ne le formalise plus de la même manière, on ne le formalise pas de la même manière en plus.
Non, et surtout chez nous, tout est devenu un business là autour. Alors que chez eux, les concerts restent gratuits, si tu veux. C'est les mécènes qui payent les musicaux. Du coup, les musicaux sont payés, mais le peuple, c'est gratuit. Parce que tout le monde a droit à un accès aux divinités. Toi, c'est un autre beans qu'ici, quoi. Tandis qu'ici, tout le monde a droit au porte-fric, donc tu payes. Voilà. Mais en fin de compte, ouais, je pense que l'effet de la musique sur les gens, il doit être partout dans le monde la même chose. Ça doit faire la même chose, je pense.
Mahadev Kometo, sur cet album qui s'appelle Freedom, il y a votre nom et puis il y a le nom de Vincent Henny, qui est plein de choses en fait. Alors, guitariste particulièrement. Je ne sais pas s'il touche aux machines ou si... En tout cas, moi, je l'ai vu comme guitariste pendant un temps avec les Young Gods. Je l'ai vu accompagner d'autres personnes ici, notamment un groupe qui s'appelait Aloan. Qu'est-ce qu'il a fait là sur cette histoire que je pensais être finalement très personnelle?
Vincent Henny, c'est probablement un des musiciens les plus talentueux que j'ai rencontrés dans ma vie. Il joue tout. Il joue de la guitare, mais il joue de la guitare autant classique que punk. Il joue du clavecin, il joue de la musique classique, il joue du piano, il joue de la batterie, il joue à peu près tout ce que tu veux, quoi. Il est computer freak, il a les softwares les plus avant-garde que tu peux trouver. Il vient de faire quelque chose au CERN avec les scientifiques. Je veux dire, c'est un type carrément impressionnant et génial, quoi. Moi, je m'entends très bien avec lui. Et on a élaboré les batteries de cet album. Ça veut dire les rythmes et les ambiances électroniques. On a fait ça ensemble en janvier-février 2012, en deux ou trois sessions de studio. Ça a été très vite fait. C'était très facile, c'est quelque chose qui coulait de source. Moi, je jouais du sitar pendant que lui, il cherchait les beats. Moi, j'avais une idée assez claire du résultat, du tempo, du truc. Donc, je le drivais un peu dans la recherche. Et puis, tout de suite, c'était, écoute, là, c'est bon. Alors, on enregistre ça, voilà, merci. Et maintenant, on passe au suivant, au troisième, etc. Et puis, c'est ce qu'on entend sur l'album, à peu près tel quel. C'est tout le reste qui m'a pris 5 ans, si tu veux. C'est mettre le sitar avec ça. Ça, c'était vraiment, j'aurais pu arrêter, mais 20 fois de suite. Ou c'était des échecs. Tu dis, mais nom de Dieu, c'est pas possible. J'ai une malédiction, mais quelqu'un m'en veut. Je sais pas, il n'y a rien qui fonctionnait. En même temps, c'était excitant. Tu dis, mais c'est pas possible. Attends, ça fait 30 ans que je fais de la musique ou plus, disons, dont 20 avec les Gods, mais il y a encore tout ce qui s'est passé avant. Qui n'est pas rien du tout. Donc, j'ai dit, mais nom de chien, je pourrais quand même pouvoir m'en sortir avec cette affaire. Donc, si tu veux, au même titre, dans un premier temps, j'étais désemparé. Et après à peine une nuit de sommeil, je me disais, non, moi, je veux arriver au résultat. D'ailleurs, le résultat, je l'ai toujours eu dans la tête, si tu veux. J'entendais le truc, comme il est là maintenant. Et j'ai pas démordu de l'affaire, j'ai pas lâché l'os, quoi. Je n'ai fou. Mais magnifique, je suis d'autant plus content aujourd'hui, je te dis.
Est-ce que finalement on est très très éloigné d'un travail qu'auraient pu faire les Young Gods dans leur recherche de musique d'ailleurs, de musique qui n'est pas du tout uniquement européenne, et de mélange justement entre ces cultures et cette étude des façons d'associer les cultures? C'est quand même une bonne partie du travail des Gods, non?
Mais je sais, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus. Mais Franz, lui, au niveau de sa famille, du sang, disons, lui, il est plus vers l'Amérique du Sud.
En ce moment particulièrement.
Il a toujours été, parce que son grand-père, le brésilien. Donc, il a du sang Amérique du Sud. Moi, perso, pas. Ça reste dans les Ormonts, ensuite. Entre les Ormonts et Fribourg, quoi. Quelque chose comme ça. Et puis, ouais. Je sais pas quoi dire.
On va pas réécrire l'histoire, mais...
Non. Quand j'y étais, on faisait des trucs assez naturellement, sans se prendre le chou. Ça, les idées arrivaient comme elles arrivaient, là. Et puis maintenant que j'y suis plus, je sais pas si on aurait pu ou pas, ou je sais pas, d'une idée.
Et enfin, Mahadev Kometo, il y a quand même... on va finir par ce qui m'a frappé tout de suite en écoutant cet album. Sur la première plage et la troisième, je crois, il y a la même phrase musicale, mélodique, qui revient, et qui est un riff de guitare, finalement. Qui ressemble à un riff de guitare, de blues et de blues rock et c'est cette note là qui revient tout le temps, mais qui est pour moi une référence à la musique occidentale quand même, même si la matière, même si le son est plus difficile à définir. C'est cette phrase, je sais pas si je l'ai plus en tête.
Il
y a un truc comme ça qui c'est quand même un truc qui ça pourrait se retrouver au milieu d'un solo de blues, ça, non?
Non, ça t'as déjà entendu ça sur le disque de Weather Report par Pastorius.
Par exemple.
Voilà, parce que ils ont été en Inde, puis probablement ils ont adoré Rag Shivaranjani, c'est sûr et certain. Et puis si tu veux, ça les a influencés, ils ont aimé ce truc. Je peux presque parier, ouais. C'est les notes du raga. Ils ont transformé un peu. Ils respectent pas, si tu veux, le protocole indien. Mais ils sont inspirés du morceau et ils ont bricolé ça pour aller ailleurs. Mais c'est Rag Shivaranjani à part entière. Ouais.
Il y a pas eu envie de faire un clin d'œil à quelque chose et de faire une passerelle de plus entre l'Occident et l'Orient, quoi.
C'est-à-dire. Moi, j'ai appris avec mon gourou Rag Shivaranjani, tu vois, puis quand j'en arrive à cette position-là, je me dis, nom de Dieu, c'est Weather Report, cette affaire. Puis je me dis, j'entends, tu vois, ça va pas être l'inverse. C'est pas l'Indien qui a piqué le truc. Hein, bon, alors, tu dis, c'est marrant, on dirait que tout découle du Rajasthan, là. Mais non, je me suis dit, moi, je respecte le protocole, donc je fais mon plan. Ça m'arrange bien qu'il y ait un link, là. C'est parce que je trouve ça magnifique. Ça me plaît, donc j'y vais dans le bon sens, dans le sens du partage. Je trouve ça super.
We'll be right back.
derrière Sraga, il y a quand même toute la mythologie de Shiva, parce que je suis protocole indien. Donc c'est aussi ces gens, ces maîtres, ils savent pourquoi ils appellent ce morceau Shivaranjani, pourquoi il faut jouer le soir et qu'est-ce que ça fait sur la tête des gens. Donc Shiva, c'est quand même le dieu qui va détruire en toi tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ça va être anéanti pour faire place au nouveau, qui va forcément être positif. Donc moi, je...
C'est marrant d'être associé à ça, non?
C'est fantastique. En ce qui me concerne...
C'est encore une coïncidence. C'est parce encore... que renouvellement d'identité, nouvelle vie qui redémarre.
Bien sûr, c'est une coïncidence totale. Et je peux dire que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc les collaborations anciennes sont apparemment qui n'étaient pas forcément positives pour moi. Tout a été, si tu veux, éliminé, tout simplement, sans tambour ni trompette, je veux dire, ça s'arrête presque naturellement pour laisser place à du nouveau, à des nouvelles collaborations qui ouvrent sur des trucs vraiment très stimulants, très positifs. Ça paraît facile, naturel, tout va dans le bon sens et je suis extrêmement content.
J'aime bien cette idée de Mahadev Kometo selon laquelle les gens de Weather Report, ces énormes pointures du jazz des années 70, se seraient servis dans la tradition indienne, et à mon avis c'est tout à fait crédible. Ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on écoute depuis tout à l'heure, depuis quasiment le début de cette heure, ce sont évidemment des extraits de Freedom, l'album de Mahadev Kometo que vous avez peut-être connu à d'autres époques sous d'autres cieux sous le nom de Al Comet en tant que membre des Young Gods. Voilà, pour resituer le monsieur si vous n'étiez pas là.